Alors, on doit monter au ciel même par le cours. Puisque la métaphysique nous fait toucher intellectuellement et affectivement, mais humainement, le mystère de Dieu, le mystère du Père. Puisque on dit que Dieu est Père parce qu'il éduque notre intelligence et notre cœur. C'est dans la mesure même où il éduque notre intelligence et notre cœur qu'il est Père. Alors il y a une paternité naturelle à l'égard de notre intelligence et à l'égard de notre cœur. Et une paternité surnaturelle. Vous voyez tout de suite la différence. C'est qu'au point de vue surnaturel, Dieu nous traite comme des fils légitimes qui ont le droit à l'héritage. C'est le preuve de la paternité. C'est de donner aux fils et aux filles l'héritage du Père. Et cette paternité surnaturelle, c'est de nous donner son héritage. Et dans la fête d'aujourd'hui, c'est bien ça. Le Père reprend son Fils, si j'ose dire. Il ne l'a jamais quitté, mais il l'attire d'une façon telle dans l'humanité sainte du Christ, et il veut que cette humanité soit glorifiée de la gloire du Père, l'héritage, la vie même du Père. Et c'est ça qui est merveilleux, puisque par l'ascension, on sait que le Père nous appelle à vivre, nous aussi, du même héritage. Il n'y a pas de dispute entre les fils légitimes, les aînés et les cadets. Nous sommes sans doute les petits derniers de l'Église, hein, comparativement aux très grands saints du début. Nous sommes, je ne sais pas quand l'humanité retournera officiellement à Dieu, jugement dernier, quand Dieu dira, par l'intermédiaire de Marie, jette ta faucille. Alors écoutez bien, le jette ta faucille. Aujourd'hui, on doit l'écouter, parce que il n'a pas acheté sa faucille pour Jésus, parce que Jésus n'est jugé par aucun, il est fils. Le fils, on ne le juge pas. C'est du reste très beau, ça. Parce que dans la mesure où nous sommes fils, nous passons la douane. En laissant tout, sans regarder, parce qu'on est fils. Mais le fils, il draine derrière lui la pauvre nature humaine. Et c'est vrai, on porte quelque chose de la nature humaine qu'on n'a pas totalement sanctifié jusqu'au bout. Hein. Alors lui, il passe la douane. Jugement particulier. C'est vrai, le jugement, c'est l'égard de la nature. Et c'est la personne, le fils bien-aimé, qui n'a pas assumer toute la nature humaine, qui a laissé la nature à son état vague, allant à droite et à gauche. Petite question, est-ce que faire de la métaphysique est naturel à l'homme? Alors, naturel, la nature, vous voyez. Vous dites aussi que l'intelligence est faite naturellement pour atteindre l'existence de Dieu, mais ses activités intellectuelles ne sont-elles pas personnelles? Ne faites pas une dialectique entre nature et personne. Distinguez-les et elles sont même finalité. Vous comprenez? Ma nature, elle est faite pour être entièrement éduquée par ma personne. Si je remonte très loin, ou pas très loin, ma nature est dans un état sauvage. C'est... Vous voyez, quand on prend la comparaison de dit que la grâce est une greffe, ça veut dire que la nature est sauvage. Je suis, par ma nature, le sauvageon qui donne de très mauvais fruits. Vous avez déjà pris des raisins de vignes non greffées. C'est très curieux. Vous avez déjà pris des cerises de cerisiers sauvages. La grâce, en effet, est une greffe. Mais c'est une greffe substantielle qui est capable de transformer toute ma nature en enfant de Dieu. Ce n'est pas naturel pour moi d'être enfant de Dieu. C'est la grâce qui fait ça. Ce qui est naturel pour moi, c'est de reconnaître que mon intelligence et mon cœur, ma volonté, ne peuvent pas être satisfaits par un bonheur humain, même l'amitié qu'il y a dans mon intelligence et dans mon cœur. Quelque chose de plus profond qui, quelquefois, pendant toute ma vie, est rejeté. Il y a un refoulement terrible à l'égard de l'intelligence et à l'égard du cœur. Le monde d'aujourd'hui, quand on proclame que Dieu n'existe pas, quand on proclame que l'intelligence n'est pas faite pour regarder Dieu et la métaphysique, on fait un refoulement pour l'intelligence humaine. Les mathématiques mettent notre intelligence humaine dans un état de refoulement. On peut dire ça entre nous, hein. Je ne peux pas le répéter, ça, au gouvernement. C'est vrai. Parce que c'est une route parallèle qui va très loin, mais qui n'a pas de terme. Un mathématicien ne peut jamais dire « c'est terminé ». Non, c'est toujours... Il est toujours pour continuer... Il n'y a pas de terme. La métaphysique touche le terme en montrant que Dieu existe. Dieu est le terme, la fin. Il est un terme sans fin. Il n'y a pas de limite. Donc, mon intelligence, à la différence de ma raison, une distinction qui a été faite par les Grecs, une distinction analogue, comprenez bien, à l'être et au mouvement, du côté de la vie. La distinction entre intellectus, l'intelligence, et ratio. La raison, elle se développe dans le mouvement. L'intelligence, elle est faite pour contempler. Et son raisonnement est un raisonnement analogique. Matériellement semblable au raisonnement de la raison, mais profondément différent. La métaphysique, elle n'est pas faite en premier lieu pour le raisonnement. Elle n'est pas faite pour, en premier lieu, pour la logique. Elle est au-delà de la logique. C'est ça qui est... Vous voyez, prenez la comparaison d'un petit arbre a besoin d'être soutenu. Surtout quand il est dans une prairie où il y a des animaux. Il a besoin d'être entouré. Mon intelligence, au point de départ, ma raison, a besoin de la logique qui est ce qui l'entoure et qui l'empêche de dévier. Cet arbre, quand il grandit, il rejette automatiquement tout ce qui est autour de lui pour le protéger. Et il a par lui-même sa direction. C'est analogue à développement de l'intelligence. Au début, mon intelligence raisonne, elle apprend à raisonner, et la logique est là pour la soutenir, pour qu'elle ne dise pas de grosses bêtises. Qu'elle ne dise pas un chien plus un bœuf, deux animaux. La logique est là pour que je raisonne bien. Et quand mon intelligence a vraiment découvert ce qu'elle devait être pour dire ceci est, la réalité, je suis, j'existe, et toute la science est pour l'homme, et non pas l'homme pour la science. Quand j'ai compris que les mathématiques étaient pour l'homme, et non pas l'homme pour les mathématiques, quand j'ai découvert ça, je découvre alors à ce moment-là que mon intelligence n'a plus besoin de la logique. Elle a en elle-même suffisamment de structure, de force pour s'organiser elle-même. Et c'est la pensée analogique. Ce n'est pas par la logique que j'atteins Dieu. La logique, elle est très intéressante pour tout ce qui est humain est mesuré par l'intelligence. Parce que la logique, elle veut mesurer, elle veut définir. Et la logique ne peut pas atteindre Dieu. Vous voyez, tant qu'on a distingué en philosophie raison, le mode humain d'être intelligent, et intellectus, l'intelligence, le nous, grec, qui fait qu'on possède au-dedans du développement de l'intelligence son organisation. Tant qu'on a distingué ces deux, on voit que l'homme développe en premier lieu et éduque en premier lieu sa raison. Il est fait pour faire des mathématiques. Il ne les fait pas trop mal. Il y a les têtes mathématiques et les têtes poétiques. Alors, comme les mathématiques ont un empire souverain aujourd'hui, il y a une réaction très violente pour sauvegarder la liberté de l'intelligence. On voit bien ça. Le nouvel âge, ce n'est pas le nouvel âge mathématique. Non. C'est au fond l'intelligence qui veut respirer. Les mathématiques peuvent être une muselière. Mais quand les dents grandissent, on ne veut plus de muselière. Hein. On veut croquer directement le gibier. Croquer l'être. L'atteindre directement dans ce qu'il a de plus lui-même. Et non pas atteindre l'être mathématique terriblement civilisé. Et par le fait même, un peu toujours le même. C'est vrai. Dans la mesure où les pays se civilisent, ils se ressemblent tous. Vous avez regardé la taille des chapeaux. Quand vous avez encore un peuple qui a des grands chapeaux, hein, et qui vient à Paris avec son grand chapeau, tout le monde le regarde. Alors quoi, pas du tout. Il est tout à fait bien de son pays. Mais à Paris, ce n'est pas la mode. Alors, on veut bien un certain temps. Mais on lui dit, quand il est là déjà depuis quelques mois, « Je t'en prie, plus ton chapeau. » C'est un petit signe, hein. C'est un petit signe que la civilisation, elle est univoque la plupart du temps. D'où les réactions violentes artistiques. Parce que l'artiste n'aime pas l'univoque. Il touche l'intelligence analogique. Et la civilisation d'aujourd'hui, elle est univoque. Il faudrait que tout le monde chante de la même manière, que tout le monde parle de la même manière, que tout le monde ait le même raisonnement. On n'accepte plus quelque chose qui est propre à l'intelligence comme intelligence. Vous voyez, à partir de Descartes, on a voulu unifier ratio et intellectus, la raison et l'intelligence. et on l'a unifié par l'entendement. L'entendement, c'est aussi bien la raison que l'intellectus. Vous voyez, la fausse unité qui fait un mélange. Et on voit ça pour tous les pays. Vous voyez, à ce moment-là, on peut dire que c'est la culture qui prend le pas sur l'intelligence. Et on veut que ratio et intellectus soient les mêmes. Alors, vous comprenez, la réponse, elle est là. Hein. Quand on a voulu unifier ratio, raison et intelligence, la métaphysique n'est plus naturelle. La science mathématique est naturelle. Elle est le propre de l'homme. Et elle devient le signe propre de l'homme. Alors, l'artiste s'en tire comme il peut en disant « Je vais vivre seul ». Et le métaphysicien aussi s'en tire comme il peut, je vivrai seul. On est tous exclus de la culture commune qui, elle, veut avancer en unifiant intelligence et raison. Et alors, l'intelligence comme intelligence, c'est-à-dire l'intelligence qui est faite pour les pour la métaphysique et qui est faite pour découvrir Dieu, est étouffée. Elle est vraiment étouffée. Elle n'arrive plus à respirer selon son rite propre. C'est très grave, ça. Parce que est reconnue uniquement la science. Et ce qui est pire, c'est que ça fait contagion même dans l'Église. On veut des diplômes. On n'accepte plus une formation purement de sagesse, qui est de l'intelligence. On ramène tout à la ratio, à la raison. Mais, alors la foi, est-ce que la foi s'enracine dans l'intellectus, dans l'intelligence, ou dans le mode humain de l'intelligence, la raison? Ça, il faut se poser la question. Est-ce que la foi vient perfectionner l'entendement cartésien? Ou est-ce que la foi vient perfectionner le nous, l'intelligence d'Aristote? Si vous posez la question loyalement, vous répondez que la foi ne perfectionne pas l'entendement, mais la foi vient perfectionner l'intelligence comme intelligence. Parce que l'intelligence comme intelligence est faite pour Dieu. Mais la raison, le raisonnement, les mathématiques, la foi ne s'enracine pas dans une intelligence mathématique. La foi n'est pas des super mathématiques. La foi ne vient pas perfectionner l'entendement. Elle perfectionne l'intelligence comme telle. C'est exactement ce que le Saint-Père nous dit dans l'encyclique Ratio, raison et foi. Il insiste là-dessus. Et le dit comme, je crois, aucun pape jusque-là ne l'a précisé avec autant de netteté. Et si le Saint-Père a fait ça, c'est parce qu'il voit que, de fait, la confusion s'est généralisée. On croit qu'on peut se servir de la philosophie de Descartes, la philosophie de Kant, la philosophie de Jung. On peut se servir de ces philosophies au point de vue de la foi. Or, on ne peut pas. Parce que la foi vient perfectionner l'intelligence en tant que l'intelligence est faite pour la vérité. En tant que l'intelligence est faite pour atteindre ce qui est. Et non pas l'imaginaire. Et non pas quelque chose qui serait fait par l'homme. La foi ne repose pas sur le facere, ce que l'intelligence humaine fait. La foi ne repose pas sur la logique, l'art des arts. La foi repose sur l'intelligence dans ce qu'elle a de naturel. Mon intelligence, dans ce qu'elle a de naturel, est faite pour dépasser le naturel. Mais fondamentalement, mon intelligence est naturelle. Elle s'enracine dans mon âme. Et nous sommes tous intelligents. Mais on n'a pas développé notre intelligence. On a développé les mathématiques. Vous voyez, tout le christianisme, toute la culture chrétienne s'achève dans une culture mathématique. C'est triste. Je comprends que ça fasse pleurer. On voit les pleurs de Jean dans l'Apocalypse parce qu'il constate ça. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein. La connaissance officielle reconnue par tout le monde, c'est les mathématiques. La sagesse se ramène aux mathématiques. Elle n'est plus sagesse. Et le Saint-Père, dans son encyclique, Fides et Ratio, rappelle ça. Rappelle que l'intelligence, naturellement, est faite pour Dieu. Parce que naturellement, elle est faite pour connaître ce qui est en tant qu'être. Elle est faite pour connaître naturellement ce que l'homme ne peut pas faire, ce que l'homme ne peut pas faire, c'est l'âme. Nous avons tous la marque de Dieu en nous. Nous avons une âme. Et notre âme ne peut pas s'expliquer par les mathématiques. Elle est autre chose. Elle est faite, notre âme, elle est faite pour le bonheur. Elle est faite pour aimer. Elle est faite pour découvrir la personne humaine. Alors, il y a quelque chose de naturel. Je suis naturellement intelligent. Hein ? Pour vous tous, vous êtes naturellement intelligent. Mais la culture dans laquelle vous êtes, hein, ramène votre intelligence à votre raison. L'État, quand il veut prendre la conduite de la formation, de l'éducation, ramène tout aux mathématiques. Il n'y a que l'enseignement maternel qui refuse les mathématiques comme un super enseignement et qui veut quelque chose de plus réel. Parce que la famille, c'est fondamental. C'est la nature dans ce qu'elle a de fondamental. Et elle doit sauvegarder ce développement de l'intelligence qui dépasse toutes les sciences parce qu'elle touche quelque chose de plus radical. L'être échappe à mon facere. L'être échappe à tout ce que je fais. Je ne peux pas faire une âme. On essaie de faire un corps. On y arrive à peu près. Mais pas jusqu'au bout. Parce que le corps humain, à partir d'un certain moment, a besoin de l'âme pour être un corps humain. Autrement, ça reste un corps animal. Mais il y a un moment où l'âme est créée. Et ça échappe à ce que je peux faire. Je me heurte à ça. Mon âme, elle est principe de vie et d'être. Elle est créée par Dieu, et directement créée par Dieu. Je ne peux pas faire une âme. Je peux à la rigueur faire un mouton. On en est bien fiers. Le mouton fait par l'homme, ça. C'est quelque chose d'avoir la paternité du mouton. C'est quelque chose de merveilleux. Mais on n'a pas la paternité de l'homme dans son âme. Il y a quelque chose qui échappe. Et l'âme, elle demande de se développer au-delà de la nature, de se développer en métaphysique. Métaphysique, ça veut dire au-delà de la nature, après la nature, parce qu'elle se développe en découvrant ce qu'est l'être en tant qu'être. Et en développant l'être comme être, on aboutit nécessairement à celui qui en est l'auteur, le créateur, Dieu. Si je supprime cette voie de la métaphysique, c'est-à-dire cette voie royale de l'être en tant qu'être, je ne peux plus atteindre Dieu. Et ce qui est de plus grand, c'est les mathématiques. Dès que vous quittez la métaphysique, tout de suite, c'est les mathématiques qui apparaissent comme ce qu'il y a de plus intelligent. Alors on pourrait dire que les mathématiques, c'est ce qu'il y a de plus intelligent, fait par l'homme, réalisé par l'homme. La métaphysique, elle n'est pas réalisée par l'homme. Elle est réalisée par l'homme qui respecte ce qu'il est incapable de faire, par l'homme qui ne s'enferme pas uniquement dans ce qu'il est capable de faire. C'est l'homme qui respecte ce qui est, ce qui existe, et qui essaie de comprendre ce qui existe comme étant la première réalité la plus profonde, la plus être. Et c'est ça qui l'intéresse. Pourquoi ? Ça l'intéresse parce que c'est par cette voie qu'il pourra remonter jusqu'à Dieu et découvrir l'auteur, le créateur de ce qui est en tant qu'être. Ce qui est en tant qu'être apparaît pour moi d'abord ce qui est naturel. Naturel dans le sens de ce que l'homme n'a pas fait. La montagne est naturelle. Un parc à l'anglaise n'est pas naturel. C'est fait par l'homme. Ou à la française, hein. C'est fait par l'homme. C'est le fruit d'une culture. Et c'est très marqué. C'est très marqué. Ça rappelle tout. Ah oui, ça, c'était comme ça du temps de mon arrière-arrière-grand-père. C'est pas moderne. Voilà ce que je dirais tout de suite. Vous voyez, un jugement sur ce que l'homme a fait. Ce que l'homme fait est toujours dans le temps. Ce que Dieu fait dépasse le temps. Et mon intelligence, en tant qu'intelligence, est faite pour dépasser le temps. Saisir ce qui est. Ce qui est dépasse le temps. C'est fait uniquement par quelqu'un. Je ne dis pas tout de suite Dieu, je dis c'est fait par quelqu'un. Dans l'homme qui apparaît, dans le petit enfant qui apparaît, oui, il y a une œuvre humaine, c'est évident. Il y a le père et la mère, et ils ont été pris par ça. Mais très vite, on reconnaît qu'il y a quelque chose de plus grand que ce que l'homme a fait. L'âme. Vous voyez ? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la première œuvre du métaphysicien, c'est de montrer que dans l'homme, il y a quelque chose qui n'est pas fait par l'homme. L'homme n'est pas entièrement dépendant de l'homme, du père et de la mère. Il y a en lui quelque chose qui échappe. Ce quelque chose qui échappe, c'est l'âme. Je crois que le grand problème de la métaphysique actuelle, c'est de arriver à découvrir qu'il y a dans l'homme quelque chose qui n'est pas de l'homme. Quelque chose de plus grand que l'homme. l'enfant, très vite, comprend qu'il n'est pas entièrement relatif à son père et à sa mère. Qu'il y a quelque chose en lui qui dépasse ça. Et ce quelque chose qui dépasse en lui à l'égard de cette dépendance, c'est son âme. Vous voyez, le premier grand problème métaphysique aujourd'hui, c'est de dire que l'âme est... On découvre l'âme au point de vue métaphysique en découvrant ce qu'il y a de premier dans l'être, la substance. Il y a en moi quelque chose de substantiel qui échappe au mouvement. Et ce quelque chose de substantiel, c'est mon âme. Ça dépasse le mouvement. Or, faire de la métaphysique, c'est découvrir qu'il y a dans l'homme quelque chose qui ne provient pas de l'homme. À ce point de vue-là, la métaphysique est révolutionnaire. Hein, parce qu'on montre que l'homme n'est pas entièrement dépendant de son père et de sa mère. Qu'il y a en lui quelque chose qui lui permet de dépasser son père et sa mère. Vous voyez, une culture très traditionnelle, voudra que l'enfant soit totalement dépendant des parents. Et quand il n'est plus dépendant des parents, qu'il soit dépendant de l'État. Parce que l'État a toujours une ambition de remplacer le père et la mère. C'est l'ambition comme naturelle à tout État. Parce que ce qui résiste le mieux à l'État totalitaire, c'est la famille. La famille, elle existe par en dessous. L'État totalitaire voudrait tout prendre, mais la famille échappe. La famille, c'est la naissance. Et la naissance montre qu'il y a quelque chose qui échappe aux parents, qui est plus. Il y a dans le petit une âme. Et cette âme se développera et permettra de découvrir ce qu'est la personne. Parce que mon âme a une finalité, ce pourquoi elle est faite, elle a une finalité qui dépasse la famille. Ça fait toujours un drame hein, quand l'enfant ne fait pas le même métier que le père. Le garçon échappe au père. Il ne fait pas le même métier, il n'a pas fait le même choix. Le père voudrait toujours que l'enfant fasse le même choix. Non, il a fait un autre choix. Quand la fille a fait un autre choix que la mère. Il y a toujours un petit drame là. C'est le dépassement de la personne à l'égard de la nature. On est tous d'accord hein, que la personne dépasse la nature. Mais concrètement, quand ça se réalise, oh, c'est autre chose. Hein. La personne a une finalité qui lui est propre. Et c'est dans le choix personnel de la personne qu'il y a le dépassement de la nature. La famille, la force de la famille, c'est d'être naturelle. Elle est avant le point de vue politique. Elle est comme naturelle à l'homme, comme naturelle à la femme. C'est normal de fonder une famille, puisqu'on provient d'une famille. Et on voit qu'au moment du choix de vie, de l'orientation, on n'est pas tous à prendre le même choix, le même métier que le père, le même métier que la mère. Il y a un choix personnel. Vous voyez, la personne, elle se manifeste dans le choix de vie. Et ce choix de vie est au-delà de la famille. Il est au-delà de la famille. Par le fait même, il peut apparaître comme l'ennemi de la famille. C'est sûr, puisque on ne fait pas exactement la même chose. On ne répète pas exactement ce qu'on a vécu. Il y a un dépassement. Et ce dépassement est très difficile à accepter. Mais dès qu'on a compris que la nature était pour la personne, parce que seule la personne atteint la vraie finalité de ma nature, la vraie finalité de ma nature est d'ordre intellectuel, d'ordre spirituel. C'est mon âme, c'est pas mon corps. Il y a quelque chose qui me finalise, qui prend toutes mes forces, et que me met au-delà de la nature. Et me mettant au-delà de la nature, me met donc au-delà du naturel, tout en étant naturel. La métaphysique est au-delà de la nature, puisque c'est métaphysique. Donc c'est au-delà de la nature, tout en étant enraciné dans la nature. La métaphysique conduit à la personne et montre que la personne est toujours enracinée dans la nature. La personne ne peut pas être première. C'est justement ce qui est de si original et de si curieux dans l'homme et dans la femme, c'est qu'ils sont premièrement, pendant de nombreuses années, l'enfant de leurs parents. C'est une très grosse différence avec les animaux, parce que le petit mouton qui naît est très vite indépendant de ses parents. Tandis que le petit enfant qui naît est pendant de nombreuses années dépendant de sa famille. Alors, on projette chez les animaux le terme famille. On dit la famille des lions. Mais au fond, c'est une famille assez anarchique. Il y a une famille, puisqu'il est le roi des animaux. Et une famille, ils ont un repas en invité une fois au repas des lions. Alors évidemment, on y va en auto. Hein. Mais c'est extrêmement intéressant d'assister au repas de famille. On est là pour regarder. Ça plafonne assez vite. Hein. La nature, le lion, la lionne, et c'est la lionne qui donne à manger à tous, et au lion en dernier lieu. Mais c'est le meilleur morceau. Hein. Il est réservé pour le lion. Et pendant qu'on voit ce repas de famille, on voit dans l'horizon des frères de la victime. Voilà cette chose très étonnante qu'on a tué le petit animal, on le mange paisiblement en famille, tandis que le frère se balade. C'est très curieux hein, de voir cet ordre naturel. C'est beau. Mais il y a chez l'homme la personne. Il y a chez l'homme un choix de vie personnel. Et il n'y a pas seulement un choix de vie naturel pour continuer l'espèce. Non. Si on se marie uniquement pour continuer l'espèce, ça ne tient pas beaucoup. Il y a un choix personnel. Et ce dépassement de la personne, au fond, l'ascension, c'est la fête du dépassement de la personne à l'égard de la nature. Très étonnante, mais ça nous est montré clairement. La personne s'envole auprès de Dieu, auprès du Père. Elle ne peut pas rester sur terre. Elle s'envole. Jésus ne pouvait pas rester indéfiniment sur terre. Ça aurait été anormal. Et donc, pas naturel. Ce qui est naturel, c'est qu'il quitte la terre, la famille terrestre, qui a déjà été très, très particulière. Cette famille qui a un caractère très unique, on dit la sainte famille. Mais même la sainte famille, bien qu'elle soit sainte, n'est pas éternellement sur terre. Elle est un certain temps sur terre. Et après, elle est brisée pour se terminer dans une famille éternelle, qui n'est plus une famille, qui est au-delà de la famille. Qui elle est éternelle, c'est la personne. La personne a une mission au-delà de la nature.